Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Avec le chapitre 14 du livre « Monsieur le curé fait sa crise » écrit par Jean Mercier, nous allons retrouver Monseigneur Vignon qui va aller retrouver Benjamin dans son exil volontaire. L'un comme l'autre a quelques griefs à relever entre eux et nous allons l'entendre. Puis ce sera quelques mots sur l'attitude du maire de cette commune. Le prêtre emmuré fait venir des touristes. Reprenons donc notre lecture. Chapitre 14. Une vérité qui fait mal. Depuis qu'il a appris la disparition de Benjamin, Jean-Philippe Vignon ne cesse de trembler intérieurement, en dépit de sa force de caractère. Chaque fois que le téléphone retentit, il redoute une voix qui lui annoncerait blanche et grave « Bonjour, ici la gendarmerie, nous avons retrouvé le corps sans vie du père Bucquois. » Monseigneur Vignon ne peut chasser de sa tête un terrible souvenir. Jadis, il a connu un prêtre de 40 ans, apparemment en forme, qui a mis brutalement fin à ses jours. Le 29 juin de cette année-là, alors que tous les prêtres se remémoraient le jour où ils avaient été ordonnés, il s'était tiré une balle dans la tête. Qui l'aurait cru capable d'un tel geste? En fait, il portait en lui une faille qu'un conflit avec sa nouvelle paroisse avait transformée en gouffre, gouffre dans lequel il avait glissé sans que personne ne s'en doute. Et si c'était également le cas de Benjamin? Mais ce matin, à 6h07, un appel de son vicaire général, Jean-Philippe Hameçon, met fin à son angoisse. Ce lève-tôt a vu un message sur le compte Twitter de Jennifer Duploux avec un lien renvoyant à son interview de Benjamin. Tout excité, le père Hameçon lui résume la situation ubuesque du curé dans le cabanon. Le cœur de Monseigneur Vignon balance entre soulagement et colère. Ouf, Benjamin est bien vivant. Mais quel sagouin tout de même! Partir sans dire un mot, laisser tout le monde mariner dans son jus, ne pas le prévenir, lui, son évêque. Après avoir lu l'article de Jennifer Duploux, contacté quelques journalistes et le préfet, puis le maire de Saint-Germain-la-Villeneuve, Jean-Philippe prend la route vers la petite ville. Il ne sait pas où se trouve cette ruelle des oubliés, mais sachant qu'elle borde le presbytère sur son flanc ouest, il devrait se repérer. Le voilà bientôt sur la place du village. À l'entrée de la ruelle, une foule de badauds s'est amassée. Le brigadier-chef Isidore Dubief manifeste par de grands moulinets de bras que la ruelle n'est pas accessible. Mais Monseigneur Vignon parvient à se frayer un chemin. « S'il vous plaît, je suis l'évêque, laissez-moi passer !» En jouant des coudes, il parvient jusqu'à la barrière où le gendarme monte la garde. « Monsieur le gendarme, je dois aller lui parler. » « Eh ben, je vous souhaite bien du plaisir. Il a déjà deux ou trois cinglés agglutinés devant son trou à rats. C'est-y pas triste, un curé qui devient dingue au point de s'enterrer vif. Passez, passez donc. Mais je vous préviens, va falloir chasser les mouches de dessus le beefsteak. » L'évêque pénètre enfin dans la venelle verte bordée de hauts murs de part et d'autre. On se croirait dans la belle au bois dormant de Perrault. Pas besoin d'appeler Benjamin pour le débusquer. Monseigneur Vignon reconnaît les curieux penchés vers le mur. « Pouvez-vous nous laisser un instant, s'il vous plaît ?» lance Jean-Philippe de sa voix bien timbrée. Les paroissiens lui libèrent instantanément la place, comme une nuée de moineaux surprise par la détonation d'un fusil. La minute d'après, l'évêque se trouve lui aussi perché sur ses rotules. Alors, Benjamin, on se prend pour une mystique du Moyen-Âge ? De l'autre côté du mur, Benjamin n'emmène pas large. Monseigneur Vignon poursuit d'une voix goguenarde. « Si ma mémoire est bonne, il me semble qu'avant de se laisser emmurer pour 3 ans, Sainte Colette avait demandé l'autorisation à l'abbé de Corbie. Le jour de ton ordination, tu as promis obéissance à ton évêque et à ses successeurs. Je me demande bien ce que tu feras endurer à celui qui prendra ma suite. En tout cas, tu nous mets tous au pied du mur avec ton histoire. » Benjamin reste dans son mutisme. La voici arrivée, la conversation désagréable qu'il redoute depuis 2 jours. Au bout de quelques secondes, Monseigneur Vignon reprend la parole. « Et puis, déballer tes problèmes à une journaliste plutôt qu'à ton évêque, c'est d'une élégance vraiment. Elle t'a bigrement bien tiré les vers du nez, cette jolie fille. Tu devrais la prendre comme confesseur, tiens. » Tu n'as même pas été capable de me dire en face que tu donnais le poste d'écriture sainte à Julien Potier, lâche Benjamin d'une voix rauque. Jean-Philippe Vignon n'en croit pas ses oreilles. Mais Benjamin, je ne comprends pas. Je ne savais pas que... Le cœur de l'évêque bat la chamade. Il sait bien... dans un recoin de son arrière-conscience, qu'il a évoqué ce poste avec lui il y a 5 ans. L'autre jour, quand il l'a convoqué, il n'a pas eu le courage d'aborder ce sujet. Monseigneur Vignon est tellement perturbé par ce que Benjamin vient de lâcher qu'il n'arrive pas à lui exprimer combien il a eu peur pour lui, combien il est heureux de le retrouver vivant, combien il tient à lui, combien il l'aime en vérité. Il n'est pas capable davantage de lui dire que, dans l'interview de Jennifer Duplou, il y a beaucoup de choses vraies. C'est évident, il faut repenser la vie d'Église. Il est clair que ces derniers mois, pris par ses occupations à Rome, à Paris, Jean-Philippe n'a pas assez accompagné ses prêtres, et Benjamin en particulier. La dernière fois qu'ils se sont vus, il s'est contenté de le tancer au sujet d'Evelyne. Jean-Philippe Vignon est un être doué d'une extrême sensibilité et mesure comme jamais auparavant son inaptitude à communiquer ses sentiments. Une fois de plus, il se retrouve face au problème affectif qui le poursuit depuis l'enfance. Cette pudeur maladive qui le pousse parfois à être dur, voire injuste, avec ceux qu'il apprécie le plus. Il aime les gens, mais il est capable de leur exprimer sa reconnaissance à peu près autant qu'une baleine bleue de faire des pointes. Benjamin reprend l'avantage. J'ai eu tort de fuir, mais je n'ai pas failli à ma promesse d'ordination. Je ne t'ai pas désobéi. J'ai juste fait une fugue, c'est tout. C'est bon, je te pardonne. Mais il est hors de question que ce cirque se poursuive davantage. Tu dois sortir de ce trou au plus vite. Le problème, c'est que pour te faire sortir, il va falloir détruire le bâtiment, ce qui n'est pas sans risque pour toi. C'est du moins ce que m'a expliqué le maire ce matin. Quoi qu'il en soit, en attendant ta délivrance, je te demande d'observer la plus totale réserve face à ceux qui font la queue pour te parler, et notamment aux journalistes du monde entier. C'est mon devoir de te protéger. » L'évêque fait jurer à son curé de ne plus adresser la moindre parole à ses prédateurs médiatiques. Benjamin lui objecte qu'il est difficile de savoir à qui il s'adresse à travers ce mur. Certains punitifs peuvent se faire passer pour d'inoffensifs quidam. Jean-Philippe a une meilleure idée. En dehors des quelques personnes que tu connais, et en qui tu as déjà toute confiance, tu ne communiqueras avec les gens que sur le mode de la confession. Comme ça, tu seras protégé. Et c'est ce qu'on va dire à la presse. Tu ne parleras aux gens que dans ce cadre. Cela refroidira les ardeurs des gratte-papiers. Ils ne sont pas du genre à se confesser. » Au-delà de son astuce stratégique, Monseigneur Vignon se réjouit secrètement de cette gentille punition qu'il impose à son fugueur. Il veut se recentrer sur son ministère de prêtre. Eh bien, il va voir ce qu'il va voir. Il va faire comme le curé d'Ars, confesser, 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 assis pendant des heures dans son trou sombre et inconfortable, confesser en s'en faire des escarres aux fesses, à s'en crever les tympans. Chapitre 15. Une sacrée foire à tout. C'est un sacré coup de com', les amis. Georges Garnuchot fait sauter un bouchon de champagne et verse le breuvage dans des flûtes en plastique achetées en hâte par sa secrétaire Ginette Trentemoult. Le maire a décidé de marquer la parution du 1000e article mentionnant le nom de sa commune. Ce bourg paumé est sorti de l'anonymat à la faveur du fait divers extrêmement contagieux qui s'est diffusé sur Internet et les réseaux sociaux. Le monde entier se passionne désormais pour l'aventure du reclus volontaire. Depuis une semaine, date de la parution de l'interview de Jennifer Duploux, les journalistes accourent des quatre coins de la planète. Du Brésil, d'Afrique du Sud, d'Australie, du Canada, des centaines d'autres plus paresseux se sont contentés de recopier les articles de leurs confrères en les agrémentant, ça et là, de quelques fioritures parfois. Tous se citent plus ou moins réciproquement dans une fièvre plagiaire planétaire où la vérité des faits importe beaucoup moins que l'excitation sensationnelle. Pour le maire, c'est un triomphe. Saint-Germain-la-Villeneuve est devenu le centre du monde. Cela mérite bien un peu de champagne.
Vous êtes toujours sur Radio Alliance Plus, dans l'émission Jolie pour vous, présentée par Hélène Vignon.
Il a suffi d'une semaine pour que la petite ville change de visage. Les touristes affluent chaque jour par centaines, tels des guêpes attirées par une tartine de confiture. Il a fallu transformer un champ de la périphérie en immense parking et installer un minibus pour faire une navette jusqu'au centre. La poste a même dû installer une boîte postale supplémentaire pour absorber le flux de courriers. Le mode de communication exclusif édicté par Monseigneur Vignon avec le prêtre, la confession, n'a pas arrêté le flot des curieux. Bien au contraire, le mot d'ordre a, semble-t-il, excité l'imaginaire des contemporains en mal de sensations. Aller raconter ses secrets les moins avouables à un fou enfermé dans un mur, cela a un petit côté reality show qui plaît aux foules. Cet afflux est une aubaine pour les commerçants, restaurateurs et autres professionnels de l'accueil, dont le chiffre d'affaires a été multiplié par 4. Certains proches du maire, bouffeurs de curés, ont froncé les sourcils, murmurant volontiers qu'un maire de gauche fait peut-être un peu trop de cas d'une péripétie cléricale. « Peut-être, peut-être », a répondu le maire, « mais en attendant, je renfloue les caisses de la ville. Vous finirez par me dire merci. » Il ne faut pas négliger le fait que le parking est payant, comme à Euro Disney. Voilà qui permet de trinquer sans scrupule vis-à-vis de la laïcité. Quant à l'abbé, il a fini par trouver son rythme. Chaque matin, il se lève vers 4 heures, réveillé par les oiseaux des frondaisons. Il dit l'office des matines et prie en silence jusqu'à 6 heures, où il récite l'office des laudes. Puis il se douche et mange un peu. Chaque jour, les paroissiens lui apportent les aliments les plus variés. Vers 7 heures, les gens commencent à arriver. Le chemin des oubliés a été totalement barricadé d'un côté par ordre de la gendarmerie. On ne peut y accéder que par l'entrée qui se trouve sur la place de la République. La mairie y a installé un système de chicanes avec des barrières en métal. Un gendarme fait le filtre, de sorte qu'on ne laisse passer qu'une personne à la fois vers le prêtre et qu'on attend qu'elle réapparaisse pour laisser entrer quelqu'un d'autre. Le débit est lent. Benjamin prend son temps avec chacun. Un visiteur a laissé un coussin sur le sol, en dessous de la bouche d'aération, un supplément de confort pour s'agenouiller. Sur la place de la République, un forain a installé une baraque à frites. Le cours du hot-dog s'est envolé au fil des jours. À midi, Benjamin interrompt les confessions. Il prit l'Angélus, puis revêt son aube, son étole et sa chasuble pour dire la messe. Dehors, une trentaine de personnes, pas plus, a demandé la gendarmerie, entendant l'Eucharistie serré dans la venelle bien à l'ombre. Benjamin célèbre à haute et forte voix pour qu'on l'entende de l'autre côté. L'un ou l'autre des participants lit les textes bibliques. L'après-midi, les confessions reprennent après 15 heures. Entre-temps, Benjamin a déjeuné et fait une courte sieste. Il s'interrompt dans la soirée vers 18 heures pour l'office des vêpres. Ensuite, il dîne. Le confesseur remet son étole violette vers 20h30 et ne s'arrête que tard dans la nuit. Il n'est pas évident de savoir si les gens se délestent systématiquement de leurs péchés dans l'oreille de l'abbé Bucquois, mais visiblement, tous ressortent bouleversés, les yeux souvent rougis par les larmes. La plupart du temps, ils se dirigent ensuite vers l'église toute proche et restent là dans le silence, devant la petite lampe rouge signalant la présence du Christ. Benjamin demande à chacun de ses visiteurs d'aller s'agenouiller quelques minutes devant le Saint-Sacrement. À la paroisse, il a fallu s'organiser pour faire face à ce tsunami de piété. Là où jadis, devant le tabernacle, les sièges étaient vides, on se succède désormais dans un remue-ménage de sacs à dos et les cliquetis des clés de voiture qui tombent par terre, sans oublier les téléphones portables qui mugissent de temps à autre. La première personne à avoir observé à la lettre cette consigne de prière devant le tabernacle est Mado, dès le lendemain de sa confession. Désormais, c'est une habituée. À la grande surprise des gens de la paroisse, de nombreux visages jusque-là inconnus apparaissent dans l'église. À l'évidence, l'abbé reclus a réussi à attirer des nouveaux pratiquants. Le problème est que la plupart d'entre eux ont l'air de plouques. La grosse question est désormais de savoir ce qu'il faut en faire. La paroisse, une fois de plus, est divisée. Il y a ceux qui estiment que tout ça n'est qu'un feu de paille et que ces bondieuseries s'arrêteront net lorsque leur curé sera sorti de sa tour d'ivoire, et ceux qui pensent que c'est peut-être un signe du ciel. On s'est suffisamment lamenté que les rangs des fidèles sont de plus en plus clairsemés et que le boulot retombe toujours sur ses épaules, les épaules des mêmes. Un peu de sang neuf ne fait pas de mal, oh non! De sa tour de contrôle diocésaine, Evelyne déplore cette piété de bazar, ce prurite superstitieux suscité par l'imposture d'un curé d'Ars de pacotille. Mais tout cela rentrera bientôt dans l'ordre, si seulement l'évêque fait preuve d'un peu de poigne. Monseigneur Vignon aimerait que Benjamin réintègre son presbytère. Mais les services techniques de la ville ont étudié de près le dossier. Si en attente d'une manière ou d'une autre à la structure du bâtiment, il risque de s'effondrer d'un coup, tuant net son occupant. Il est donc urgent d'attendre. L'abbé n'est pas prêt de sortir de sa réclusion volontaire. Chapitre 16. Quand le diable se frotte les mains. 30 jours exactement après le début de son emmurement, Benjamin commence à trouver le temps long, et même très long. Au début, il a vraiment savouré ces moments de profonde solitude, ce sevrage de téléphone portable et d'ordinateur. Durant la première quinzaine, il a rattrapé ses longues heures d'intimité avec Jésus, volé à son bien-aimé par un activisme épuisant. Il a conquis une vie d'oraison jamais atteinte auparavant, même dans ses meilleures années de séminaire. Paradoxalement, ces temps de prière qui structurent sa vie sont marqués par une sécheresse grandissante. Il lui semble être gagné par un sentiment d'imposture, visqueux et sournois comme une méduse bretonne flottant entre deux eaux de l'Atlantique. Il y a d'abord cette mobilisation démesurée autour de sa personne. Flatté dans un premier temps, il s'énerve désormais contre ces journalistes qui le présentent comme une star du sacerdoce. Il a bien la certitude d'être revenu au cœur de son métier de prêtre, au lieu de s'éparpiller dans mille tâches administratives. Mais son âme n'est pas réellement en paix. Au début, face à toutes ces personnes qui venaient se confier à lui, dérouler leur histoire, souvent pour la première fois, il a trouvé une nouvelle raison d'être. Seulement, n'est pas curé d'Ars qui veut. En 25 ans de prêtrise, il a certes eu l'occasion de rencontrer des gens abîmés par la vie, mais ce qu'il découvre dépasse tout ce qu'il a pu imaginer sur la nature humaine. Les violences dans les familles, les haines, les adultères, les trahisons. La misère noire de l'humanité déborde sur lui comme un égout puant qui reflue par les canalisations. Il n'a rien d'autre à offrir que son écoute, quelques paroles qui lui semblent inspirées d'en haut et l'amour miséricordieux du Christ. Mais souvent, il a l'impression de ne pas être à la hauteur de la situation et que les gens le quittent dans un état dont il n'est pas sûr qu'il soit salutaire. Après avoir attendu le chaland des années dans son confessionnal bien ciré, durant d'interminables après-midi, avec sa belle aube bien repassée par Madame Basile, le voilà prisonnier d'un rôle qui le confronte chaque jour davantage à sa pauvreté. Il lui semble aussi que sa vie de charité s'est étriquée. C'est facile d'aimer des inconnus qui viennent le voir parce qu'il est devenu célèbre, mais c'est sans doute encore mieux d'aimer les gens tels qu'ils sont, dans la durée, avec leurs mauvais plis indéfroissables. Evelyne et son plan soviétique, Monique et ses chants sirupeux, Brigitte et Guillemette et leurs querelles végétales, Jean-Philippe Vignon et son cerveau insondable. Une phrase de Jean Vanier, le fondateur de l'Arche, que Benjamin avait entendu lors d'une conférence, lui revient comme l'un de ces tubes musicaux qui vous colle à la mémoire tel un sparadrap. On ne sait pas vraiment ce qu'est d'aimer tant qu'on n'a pas dû aimer des personnes difficiles ou même très difficiles, voire impossibles à aimer. En fait, de fuite au désert pour la prière, c'est surtout une fuite devant le commandement de l'amour que Benjamin a réussi. Mais il y a pire. Son moral en a pris un coup quand il a su que le père Maurice avait fait une crise cardiaque en apprenant sa disparition. Son vieux confesseur est en ce moment même sur un lit d'hôpital et il se demande s'il pourra le revoir vivant en sortant de son gourbi. Benjamin réfléchit à nouveau à sa relation tellement complexe avec son évêque et à son amitié avec Julien, mêlée d'envie et d'admiration, qui s'est soudain transformée en un ressentiment violent, presque en haine à l'égard de ce collègue dont il était si proche. Il a tellement honte de ce sentiment laid, impur, inacceptable envers ce frère dont le sacerdoce qu'il ne parvient pas encore à s'en décharger entre les mains du Christ et encore moins à l'appeler par son nom, la jalousie. Pendant des années, Benjamin s'était cru immunisé contre ce vice qui broie l'âme et il s'en étonnait même. Il méprisait presque cette pauvre Brigitte, envieuse de la talentueuse Guillemette. Mais lorsque Julien a annoncé sa promotion, il a éprouvé l'amertume la plus violente. Pour être honnête, c'est cette amertume qui lui a fait prendre la fuite, au fond. Aujourd'hui, la jalousie creuse son cœur avec comme un acide attaque et ravive une plaie. Le prêtre est comme projeté d'un bord à l'autre d'un navire, livré à un infernal roulis au milieu d'une tempête rugissante. Sur un bord, Benjamin se dit à lui-même « C'est tellement injuste. C'est à moi que revenait ce poste, ne serait-ce que parce que j'en avais bavé pour boucler ma thèse et parce que j'ai plus d'expérience. J'avais la priorité. Et puis tout de même, quand je pense à tout ce que j'ai fait pour Jean-Philippe, j'ai été d'une fidélité sans faille. Je l'ai toujours soutenu, y compris quand il a été en difficulté dans le diocèse. Et lui, il n'a pas la moindre reconnaissance pour moi. Il me laisse dans cette paroisse de merde à me dépatouiller avec des gens qui me rendent fou. Julien a certainement très bien su se placer pour avoir le poste derrière Césaire de Sainte-Nitouche. C'est écœurant. » Sur l'autre bord, Benjamin peut sombrer dans une dévalorisation tout aussi acide. Si Jean-Philippe a choisi Julien, c'est qu'il est sans doute plus vif, plus intelligent, plus brillant que moi. Et surtout, il est plus sain que moi. Il a cette douceur, cette pureté, cette densité. Il a ce charisme qui attire vers lui les jeunes en quête de sainteté. L'an dernier, il a fait entrer au séminaire 2 ou 3 garçons et conduit plusieurs filles au couvent. Moi, je n'ai jamais suscité la moindre vocation dans la paroisse. Je suis nulle d'ailleurs. Sans tout ce bazar médiatique et cette soudaine lubie d'enfermement, je suis bien incapable d'attirer les gens vers Dieu. Je suis un imposteur. Quelque part, il y a quelqu'un chez qui ce balancement entre la survalorisation et la dépréciation suscite une jouissance exceptionnelle. C'est le diable, car ces deux pôles entre lesquels Benjamin oscille et se torture n'ont en fait qu'un seul et même nom, l'orgueil. Ce que savoure Satan, c'est que Benjamin a basculé dans une cécité qui a des allures de lucidité. L'abbé est devenu aveugle sur tous les dons uniques que Dieu a déposés en lui. En même temps, il est saisi d'une clairvoyance impitoyable sur ses insuffisances. Le diable se frotte les mains, mais la grâce n'a pas dit son dernier mot.
Vous êtes toujours sur Radio Alliance Plus, dans l'émission « Jolie pour vous », présentée par Hélène Vignon.
Chapitre 17. Une défibrillation miraculeuse. La nuit vient de tomber. Quand une voix féminine lui dit bonsoir de l'autre côté du mur, il ne la reconnaît pas tout de suite. C'est pourtant bien celle de Monique Bouchard. « Quoi ? Vous ? Monique, à genoux ? Oui, c'est moi, mon père. Oh, ça va vous surprendre. Je ne me suis pas mise à genoux depuis des années, 40 ans peut-être. Je ne pouvais pas. Je trouvais que c'était vraiment ridicule, que c'était de l'ostentation, ou un truc de vieille bigote comme du temps de ma grand-mère et de mon enfance. Quand on avait 20 ans en 1968, c'était franchement dépassé de s'agenouiller. Mais j'ai réfléchi, beaucoup réfléchi. D'abord, il y a 2 semaines, peu de temps après votre fugue, j'ai lu un livre extraordinaire, d'Etty Hilston. Avant d'être déportée à Auschwitz, elle a laissé dans ses cahiers son expérience spirituelle intime. Elle parle souvent de son expérience de l'agenouillement. Je dois dire que ça m'a drôlement émue et secouée. Cela a dû me préparer à ce que j'ai vécu ce soir. Monique marque une pause comme pour reprendre son souffle. Il y a 2 heures, ma vie me semblait bien en ordre, chaque chose à sa place. Mais Dieu est venu tout ébranler. 2 heures auparavant, en effet, Monique était en train de terminer de ranger l'église et s'apprêtait à en fermer les portes, comme chaque soir d'ailleurs. Mais intérieurement, elle grognait. L'hystérie qui a chamboulé sa paroisse, bien tranquille avec l'emmurement du curé, a fait vaciller ses repères. Avant les événements, elle avait peu ou prou le contrôle de ce qui se passait en matière liturgique. Mais depuis, elle a l'impression désastreuse de ramer dans une barque minuscule perchée sur la gigantesque déferlante de la piété catholique. Toute cette plèbe qui vient s'aplatir devant le tabernacle. Avec le temps, elle a cependant remarqué qu'une seule personne vient absolument tous les jours. une femme plus toute jeune, d'apparence assez quelconque, aux traits tirés et aux cheveux pauvres. Cette forme de fidélité muette suscite en elle une secrète admiration. Ce soir, comme à son habitude, Monique a déclamé à la cantonade « C'est fini pour aujourd'hui, nous fermons l'église. » Mais, aux surprises, il ne restait plus que l'insubmersible dévote rivée à son prie-Dieu comme une bernique à son rocher breton. L'occasion était trop belle. Alors que la femme se relevait péniblement de sa position à genoux, Monique lui a lancé « Mais enfin, madame, pouvez-vous m'expliquer ce qui vous pousse à passer votre vie ici ?» Cette parole a saisi de stupeur la vieille dame, encore plongée dans ses prières. Pardon, je n'ai pas compris, je n'ai pas bien compris. Oh, je sais que vous venez prier devant le tabernacle, parce qu'il contient le corps du Christ. Bien évidemment, je sais ça. Mais franchement, c'est excessif de venir tous les jours. Oui, la première fois que je suis venue, c'était pour obéir à l'abbé. C'était ma pénitence. Je suis venue 4 ou 5 jours de suite et puis j'ai continué. Voyez-vous, ça m'apaise beaucoup et ça me fait du bien de venir lui parler pour le remercier d'avoir changé ma vie. Lui, je veux dire Jésus. Ah ? Ah bon, à ce point-là ? Mais qu'est-ce qu'il vous a fait, Jésus ? A lancé Monique, un peu railleuse. Au fond, notre activiste paroissial aimerait percer le secret de cette minable grand-mère. Oh, si vous saviez, madame, j'étais perdue. Grâce à l'abbé, j'ai compris que le plus grave, ce n'était pas ce que j'ai fait dans ma vie, qui n'est pas bien jolie, mais de rester dans la honte. La honte, c'est comme la crasse gluante qui s'incruste sur le dessus de la gazinière dans la cuisine. Quand on commence à essayer de nettoyer, c'est pire. Ça fait comme une sorte de chewing-gum marron qui s'étire affreusement, qui s'incruste sur notre éponge et qui ne part pas ensuite même à l'eau chaude. Enfin voilà, le Seigneur m'a délivré d'un coup de cette crasse-là, c'est-à-dire de la honte d'être écrasé par mon passé, qui est bien pire que le passé. Monique s'est figée comme une statue de cire du musée Grévin. Mais Mado a poursuivi, tel un équilibriste qui se lance sur un fil au-dessus d'un abîme vertigineux. « Madame, vous m'avez l'air avide de savoir pourquoi je prie ici. Alors, je vais tout vous raconter. » Pendant près de 30 ans, j'ai été une putain, une prostituée si vous préférez. J'ai exercé à Paris dans le faubourg du Temple. Je ne vous décrirai pas cette vie, c'est trop sordide. Après cela, je suis venue ici dans ce bled pour oublier tout ça et ma frustration de n'avoir pas eu une vie plus belle. Je n'étais pas idiote, vous savez. J'aurais pu faire des études, me marier, réussir quelque chose d'utile, qui ait du sens. L'autre soir, je suis allée voir l'abbé. Je crois que j'ai été la première à lui parler, en fait, bien avant tout ce qui s'est passé ensuite. Je lui ai tout raconté. Il m'a dit que Jésus me pardonnait tout et que je devais tout remettre entre ses mains de sauveur. C'est bien ce qu'il a de plus dur, tout remettre entre ses mains. On veut tellement garder pour soi tout ce qu'on a raté, pour continuer à chercher à le contrôler, à compenser, à réparer. On veut garder cette tristesse comme une sorte de version négative de la Légion d'honneur, une décoration qu'on aurait gagnée à force de déshonneur, une médaille de perdant. Mais voyez-vous, cette tristesse de ce qu'on n'arrive pas à se pardonner est une maladie plus pénible encore que l'échec lui-même. Monique restait absolument muette, les yeux saisis de stupeur. Mado a repris d'une voix un peu dolente. « Pardonnez-moi si j'en ai trop dit. Je vous souhaite une bonne soirée. » Et elle a disparu dans la pénombre. Pour Monique, Cet échange très bref a été un véritable séisme. Ce que Mado ne sait pas, c'est que Monique est née de la prostitution. Pour des raisons qu'elle connaît mal, sa mère a dû en venir à cette extrémité. Elle est tombée enceinte de Monique à cause d'un défaut de contraception. Après sa naissance, elle est morte très jeune d'une maladie dite honteuse. Aussi, Monique a-t-elle été adoptée par des cousins de sa mère. Elle a appris cela à l'âge de 15 ans, de la bouche de sa grand-mère mourante. Toute sa vie, le fantôme de sa mère l'a poursuivie. Elle a tout fait pour passer au-dessus de ce passé horrible et pendant plus de 40 ans, elle n'a eu qu'une seule terreur, que l'on découvre chez elle ce vice caché comme une maison aux fondations pourries derrière une apparence flatteuse. Elle n'a jamais parlé de cette affaire à son mari ni à ses enfants, même devenus adultes. Après le départ de Mado, Monique s'est laissée tomber sur l'une des chaises de la chapelle de la Vierge. Devant elle, la veilleuse rouge dansait hypnotique. Soudain, elle a senti son corps soulevé par des larmes irrépressibles et entendu comme une voix intérieure qui lui susurrait « Allez, remets-moi toute cette souffrance, donne-moi tout et maintenant. » Des rencontres étonnantes, des partages inattendus, des découvertes entre personnes qui ne s'appréciaient pas. Tout cela, c'est très nombreux autour de cette rencontre concernant ce prisonnier volontaire qu'est le père Benjamin. Et l'histoire n'est pas finie. Jusqu'à la sortie de l'abbé, quittant avec l'aide de grands moyens que nous verrons très bientôt cette prison qu'il s'est donnée lui-même. Je vous recommande la suite de nos lectures sur le site de Radio Alliance Plus, l'émission Je lis pour vous, en direct radio ou podcast. Tout cela est à votre disposition. À bientôt, chers lecteurs. Au revoir.